Alors ce matin, j'aimerais vraiment, je vais pas forcément apporter quelque chose de nouveau, je regarde l'heure parce que comme je suis très bavard, je voudrais, parce que je pense que c'est une nécessité, parler sur le thème de développer beaucoup plus une intercession pratique dans nos vies. Une intercession pratique, c'est-à-dire l'intercession, la prière, de développer beaucoup plus l'intercession pratique qui va durer dans votre vie. Et j'aimerais en parler d'une manière plutôt de développer l'intercession, pas en termes de réunion d'intercession, mais en termes solo, en termes comment on peut durer, on peut aller plus loin dans notre vie de prière et d'intercession en solitaire, entre guillemets. Et je le dis parce que je crois qu'aujourd'hui, bien sûr, l'histoire du monde est longue, mais nous vivons une situation où le Seigneur demande beaucoup d'intercesseurs aujourd'hui, plus qu'avant, il y en a beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de défis dans le monde. Vous savez qu'aujourd'hui, actuellement, il y a à peu près 100 conflits régionaux ou internationaux, sans parler de l'Ukraine qui en fait partie, qui sont en train de se passer dans le monde aujourd'hui. 100 conflits régionaux, locaux ou internationaux. Vous avez déjà entendu parler de la prière d'intercession. La première chose qu'on pourrait se dire des fois, mais on pourrait se dire, pourquoi est-ce que Dieu a besoin de gens qui prient, en fait? Pourquoi ne pourrait-il pas intervenir directement et résoudre les situations? C'est souvent ce qu'on me dit. Pourquoi Dieu ne pourrait pas intervenir comme cela? Et est-ce qu'il a besoin de nous pour prier? Est-ce qu'il a besoin de notre intercession? Donc on voit dans l'histoire de l'humanité, c'est que parfois Dieu est intervenu directement sans l'intervention des hommes, n'est-ce pas? D'une manière souveraine. Mais la plupart du temps, et on le verra dans certains textes bibliques, Dieu veut que nous collaborions avec nous. Dans Jean 17, verset 9, il est dit que sans... Non, c'est pas Jean 17, verset 9. Enfin, je vais le dire autrement, c'est un autre verset. Il est dit que sans Dieu, on ne peut rien faire, n'est-ce pas? Mais quelqu'un disait aussi que sans l'homme, Dieu ne veut rien faire. Vous voyez? Et je crois que ce matin, il y a un appel pour nous à réactiver cette vie d'intercession d'une manière pratique. Parce que nous avons besoin d'aller plus loin que cela. Et si nous ne sommes pas un peu plus pratiques, nous pouvons sécher en cours de route. Nous pouvons commencer à prier d'une façon spontanée. Alors, je vais donner peut-être une définition de l'intercession. Parce qu'il y a le mot prière, il y a le mot intercession. Mais qu'est-ce que c'est que l'intercession? C'est un mot qu'on utilise pratiquement dans tous les milieux, dans les milieux catholiques, dans les milieux orthodoxes, protestants, évangéliques. L'intercession, qu'est-ce que c'est? La prière d'intercession, c'est la prière pour autrui sous la puissance et la direction du Saint-Esprit avec l'assurance qu'il y aura des résultats divins. Donc ça, c'est le premier principe. La prière d'intercession, c'est pour prier pour quelque chose qui ne fait pas partie de ma vie. Intercéder, c'est se placer sur la muraille de prière et veiller en faveur de ceux qui ont besoin de prière, de soutien dans la prière. C'est le rôle de sentinelle. Et quand nous nous tenons en prière, nous entendions Dieu qui nous parle. Je vous pose la question sans vouloir culpabiliser. Où en êtes-vous dans votre vie de prière en solo, pas en groupe, mais en solo? J'aimerais bien qu'on réactive ça. Alors, quelques passages bibliques. D'abord, il y a Paul. Dans 1 Timothée 2, versets 1 et 4, il dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions quoi? Une vie paisible et tranquille en toute honnêteté et piété. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Mes amis, ça c'est un verset qui est très actuel aujourd'hui avec les élections législatives. Quelle que soit notre appartenance politique, et je ne veux pas parler de ça, ce n'est pas le sujet, c'est le moment d'intercéder, c'est le moment de prier pour que le Seigneur mette en place, même si les hommes ne sont pas parfaits, la meilleure situation, les meilleures combinaisons pour que le Seigneur puisse libérer son plan sur le pays. Un autre passage, dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, versets 17 à 18, Jacques cite un prophète de l'Ancien Testament et il dit « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. » Bon, on n'a pas forcément peut-être besoin d'Élie en ce moment. Pas en tout cas pour retenir la pluie, parce qu'on en a besoin. Mais ce qui est intéressant dans ce passage, et pour nous encourager, Élie était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire que nous sommes de la même nature que lui. Et j'aimerais dire, en fondement, l'intercession, c'est pas seulement l'affaire de spécialistes. La prière d'intercession appartient à toutes et à tous. Elle est à notre portée, elle est à notre voix, elle est à notre cœur, elle est à notre action, voyez. Donc ça, c'est un cliché qu'il faut casser. Souvent, on dit, toi, tu as reçu un appel dans l'intercession, toi, tu as reçu un vœu, peut-être, mais l'intercession n'est absolument pas réservée à une élite, mais à tous. Élie, un homme de la même nature que nous, Dieu nous a donné sa puissance et son autorité en réponse à la prière de la foi. Je reviens à ce que j'ai voulu dire au début. Pourquoi Dieu veut nous utiliser? Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Parce que si Dieu faisait tout seul, 100% sur cette terre, qu'est-ce que le gens lui dirait? Seigneur, tu es un dictateur, tu es un gourou, tu ne nous demandes rien. Dieu veut collaborer avec nous. Et on sous-estime, mes amis, on le verra plus loin, on sous-estime la puissance que nous avons dans la prière pour renverser les choses qui détruisent notre humanité. On sous-estime cela. On sous-estime cela. Un autre passage, Jérémie 29, verset 7. Ça concerne la ville. Recherchez le bien de la ville, le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur. Encore une fois, je soulève un cliché. L'intercession, c'est de voir les choses avec le regard de Dieu. Comment est-ce qu'on voit la ville d'Angers? Comment est-ce qu'on voit notre président? Comment est-ce qu'on voit notre premier ministre? Le principe du verre vide et du verre plein. L'intercession, c'est de voir, de comprendre et d'accepter et de recevoir le regard de Dieu pour les situations. Enfin, un autre passage, un passage qui date de 2700 ans à peu près, c'est notre prophète Ézéchiel, dans une situation sociétale tendue, dans une situation religieuse tendue, c'est le cas aujourd'hui. L'Europe est secouée, le monde est secoué, il y a des contingences à cause de différentes guerres. Qu'est-ce que Dieu dit à Ézéchiel? Quant à la population du pays, pas les dirigeants, la population du pays, elle pratique l'exploitation, elle commet des extorsions, elle opprime le malheureux et le pauvre. Elle exploite l'étranger. Il n'est pas parlé des gouvernements, il est parlé de la population. Je cherche, dit Dieu, parmi eux, parmi ce peuple, quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays. Ça, c'est un verset clé. Un homme, une femme, voyez, dans une situation de désespoir, l'intercession. Dieu a besoin, oui, Ézéchiel 22, 29 à 30. Ézéchiel 22, 29 à 30. Alors, quelques pensées fortes par rapport à l'intercession. L'intercession commence avec Dieu, pas avec nous. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous entraîne dans l'intercession, c'est parce qu'il va nous communiquer des sujets qui sont sur son cœur, qui ne sont pas nos bonnes idées, et si ces sujets sont sur son cœur, il y aura des résultats, finalement. Vous voyez? C'est vraiment quelque chose qui peut produire du résultat. L'intercession commence avec Dieu, pas avec nous. L'intercession commence avec le cœur de Dieu, en recevant des révélations qui conduisent à prier les prières qui sont sur le cœur du Seigneur, et non nos propres prières. Ça, c'est la clé de voûte, mes amis. Parce que lorsque nous avons la conviction que nous prions en cherchant Dieu, les prières qui sont sur notre cœur, alors il peut y avoir possibilité d'exaucement. La prière d'intercession change le cours de l'histoire. Il y a c'est pas dans la Bible, mais il y a une sorte de proverbe qui dit que celui qui prie a les mains sur le gouvernail du monde. Souvent, on pense que les situations ont changé dans le monde parce que les politiques ont pris des décisions, on pense parce qu'il y a eu des circonstances un petit peu comme ça. Bien souvent, mes amis, on sous-estime que la puissance de milliers de chrétiens qui ont prié ont permis qu'il y ait des changements dans la société. L'intercession s'inscrit dans la durée avec des orientations stratégiques. Je vais vous donner trois témoignages, des macro-témoignages, où on a été peut-être impliqués les uns et les autres. Vous savez que dans les années 80, la Russie n'était pas la Russie comme elle était appelée. Aujourd'hui, elle s'appelait l'URSS. Et l'URSS était connue pour, je dirais, brimer, opprimer les peuples, opprimer la liberté de tous les peuples et aussi opprimer la liberté religieuse. Hein, quand tu étais chrétien, à cette époque-là, dans les années 80 et avant, si tu étais chrétien, je dirais, d'une manière publique, tu pouvais te retrouver en prison et passer des années au goulag. Même si tu n'étais pas chrétien, dès que tu émettais des opinions un petit peu libérales, tu pouvais te retrouver en prison. Et il y a un homme, un Hollandais, qui s'appelle Frère André, qui a été le fondateur d'une organisation que vous connaissez, Portes Ouvertes. Il a reçu dans la prière le fait de lancer un plan de prière pour l'Union soviétique, en faveur de l'Union soviétique, afin que l'Union soviétique s'ouvre. Vous vous souvenez de ça? C'était en 1984. Et d'une manière ou d'une autre, au travers de lettres de nouvelles, au travers de conférences, au travers d'interventions dans les églises, il a essayé de mobiliser avec ses collègues des milliers et des milliers de chrétiens avec un plan de prière qui durait 7 ans, 1984-1991. Et je me souviens à l'époque, moi j'avais 24 ans, hein, je me suis lancé là-dedans en tant qu'intercesseur soliste, on va dire. Et je me souviens, je me disais, mais il est fou ce frère André. Il est fou. L'Union soviétique, à l'époque, c'était le bloc soviétique. C'était un monstre. Voyez ? Même les États-Unis et les Américains en avaient peur. En 1983, on a failli avoir une troisième guerre mondiale, tellement la menace était importante. Toute personne qui voulait parler en termes de liberté était mise au cachot en Union soviétique. La dictature dans sa pure forme. Voyez ? 7 ans de prière. On a prié pour les gens qui étaient en prison. On avait même reçu des petites cartes. On a prié pour le gouvernement. Seigneur, ouvre ce pays. Des milliers de chrétiens ont prié. Seigneur, ouvre. Et ça semblait impossible, mes amis. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 1991? Et je vais même vous donner une date, le 25 décembre 91 à Noël. Il y a eu l'effondrement, la dislocation de l'URSS. L'URSS s'est effondrée dans l'année 91. Vous vous souvenez de ça? Des événements géopolitiques. Alors on pourrait se dire, voilà, c'est parce qu'il y a eu un coup d'État, etc. Certainement plus que cela. Ça, c'est un témoignage, mes amis, qui a marqué le monde. Un homme, un frère André, a cru par la puissance de la prière et la mobilisation de milliers et de milliers de chrétiens que l'Union soviétique pouvait s'ouvrir, que la liberté pouvait être retrouvée, que les chrétiens pouvaient aller à l'église. Et à l'époque, c'est ce qui s'est véritablement passé. On a même reconstruit des églises orthodoxes qu'on avait détruites du temps de Staline. Voyez, 91, ça c'est 91. Si vous regardez sur Google mon ami, comme je dis, vous tapez dissolution officielle de l'URSS le 25 décembre 1991. Un deuxième macro témoignage. En 1997, beaucoup plus proche de nous, il y a eu un pasteur ougandais, John Mulinde, qui est un homme de prière, qui est venu en France. Et il a exhorté le peuple de Dieu en France à s'humilier, à prier et à prier pour la nation de France. Voyez. Et il a enseigné des pasteurs, il a fait quelques séminaires en région parisienne. Et il a dit, mais mes amis, c'est le temps de se lever. Et les leaders ont été saisis par cette vision. Ils se sont dit, ce gars-là, il a quelque chose à nous dire. Et lui, il avait quelque chose à leur dire. Pourquoi? Parce qu'en Ouganda, du temps d'Amin Dada, les chrétiens avaient été gravement persécutés. Et ils savaient de quoi ils parlaient. Il est venu pour encourager, exhorter les leaders, les pasteurs de France dans les années 90 pour se dire, vous pouvez vivre quelque chose de mieux, mais il faut vous identifier, il faut voir votre pays avec le regard de Dieu. Et il a enseigné. 2 ans plus tard, en 99, il est revenu. Et à partir de ce moment-là, est né un comité que vous connaissez très bien, qui s'est transformé en une association de prière qui s'appelle Objectif France. Et Objectif France a lancé à partir de l'année 2001 une campagne de prière de jeûne et de prière chaque année où ils ont mobilisé tous les chrétiens de France et du monde entier à prier pour la France pendant 40 jours et 40 nuits pour ceux qui le voulaient. Et en 2001, on estime, mes amis, que en France et à l'étranger, avec une petite association, 2 millions de chrétiens recensés ont prié pour la France. Avec ces résultats. La puissance de la prière d'intercession, commençant à partir de nous et, je dirais, déboulant sur un effet de groupe. Troisième et dernier témoignage, et c'est là qu'il y a une diapo, elle est toute petite, je ne sais pas si tu peux la... Il y a deux diapos. Pour vous montrer que l'intercession, ce n'est pas simplement prier, je dirais, avec du carton dans la bouche, ce n'est pas simplement prier pour des choses qui ne vont pas se faire. On ne peut pas être convaincu de la prière d'intercession s'il n'y a pas des résultats. Et Dieu veut nous encourager par rapport à ça. Tu la trouves ? C'est dans le culte. Voilà. Alors, il faudrait que tu élargisses, si tu veux, voilà. Et puis tu recentres un peu, si tu peux. Oui, c'est ça que je veux voir. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça ? Ok. C'est intéressant de connaître l'histoire. Cette partie du monde s'appelle la fenêtre 1040, qu'on a plusieurs fois entendu, mais pas tous. D'où vient l'origine de cette histoire ? C'est un Argentin qui s'appelle Louis Bush, qui était un stratège, un évangéliste et quelqu'un qui priait et qui avait une capacité de mobiliser les chrétiens dans le monde entier. Et il s'est posé la question à cette époque-là, dans les années 80, il s'est dit, mais où sont les besoins les plus importants dans le monde ? On est d'accord qu'il y a des besoins partout dans le monde. Il y a des besoins dans la rue Saumuroise, mais il s'est dit, mais avec des collègues, où sont les besoins les plus importants afin que nous puissions cibler notre force d'intercession et de prière ? Et après des recherches et des études, il a proposé et il a convaincu que cette partie du monde qu'on appelle la fenêtre 1040 est la région du monde où les besoins encore aujourd'hui sont les plus grands. Je vais vous montrer pourquoi. Donc il s'est dit, ce serait bien que dans le monde entier, on puisse prier afin que la bénédiction de l'Éternel puisse aller dans cette zone géographique. Pourquoi la fenêtre 1040 ? Parce que ce schéma ressemble à une fenêtre. Et ici, il y a le 10e parallèle et le 40e parallèle. Et pourquoi a-t-il choisi cette région ? Donc ça commence à la pointe ouest du Sénégal, jusqu'au Japon là-bas. C'est l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, le Moyen-Orient, l'Inde, le Pakistan. D'abord, dans cette région-là, c'est là qu'on retrouve les trois grandes religions principales, excepté le christianisme, le bouddhisme, l'islam et l'hindouisme. Voyez. La deuxième chose encore aujourd'hui, cette région du monde est la région la plus pauvre des plus pauvres de la Terre. Aujourd'hui encore. Cette région du monde, c'est aussi la région où il y a plus de mortalité infantile. L'espérance de vie est très très basse. Cette région du monde, c'est aussi la région où aujourd'hui, malheureusement, on ajoute sur la liste, c'est aussi une région où ils sont en train de vivre les conséquences climatiques, dérèglements climatiques, récemment dans cette région du monde. Et vous savez qu'en Inde et au Pakistan, récemment, on a eu des pics de température allant de 48 à 50 degrés. 52 degrés, au point que les oiseaux tombaient du ciel par déshydratation. Ça, c'est il y a 3 semaines. C'est aussi la région du monde où le taux d'analphabétisme est le plus important. Peu d'éducation. C'est aussi la région où on trouve toutes sortes d'extrêmes religieux, où les religions se battent entre elles. C'est aussi la région du monde où il y a beaucoup de républiques islamiques, malheureusement. C'est aussi la région du monde où l'Église, toute confession confondue, est la plus persécutée. Vous voyez ? Et c'est aussi la région du monde où l'on trouve géographiquement, dans ces pays, pas dans tous, mais dans ces pays, un grand nombre de groupes ethniques qui n'ont peu ou jamais entendu parler de l'Évangile en 2020. Vous voyez ? Donc cet homme, Louis Bush, il a essayé de définir les besoins, où sont les besoins les plus grands dans le monde, dans quelle zone géographique, avec une liste de choses précises. Et il a commencé, à partir de 1993, de mobiliser les chrétiens du monde entier pour prier pour cette zone géographique, pour prier pour la fenêtre 1040. Et dans certaines églises françaises, on a entendu parler de ce message plusieurs fois. En 1993, lorsque la première campagne de prière a été lancée dans le monde, il y a eu de recenser 45 millions de chrétiens ont prié pour cette fenêtre 1040. 45 millions de chrétiens recensés. Et les résultats se sont fait voir rapidement. On dit qu'en Mongolie, par exemple, en Mongolie, au début des années 90, il y avait à peu près 5 à 10 chrétiens. Ils sont maintenant plus de 20 000. Les niveaux d'extrême ont changé. grâce à cette, à la présentation dans les églises, cette vision de la fenêtre 1040, les églises brésiliennes ont envoyé massivement des missionnaires venus bénir l'Afrique de l'Ouest en particulier. Moi, j'étais au Sénégal en 88, il n'y avait pas beaucoup de Brésiliens. Mais depuis les années 2000 et après, on a vu beaucoup de gens. L'appel a fait appel d'air. La présentation de la vision, la présentation précise de la vision a permis que des vocations se lèvent. Voyez. Et quand on parle de prière d'intercession, il nous faut des cibles. La plupart des gens qui finalement se découragent dans la prière d'intercession, c'est qu'il n'y a pas de stratégie derrière, inspirée par le Saint-Esprit. Voyez. C'est comme si on prend un arc, une flèche, on tire n'importe où, et là où la flèche tombe, on fait une cible autour. Voyez. Ça, ce n'est pas une stratégie. Donc cet homme, au niveau macro stratégie dans le monde, il a mobilisé des dizaines, des centaines d'intercesseurs, de missionnaires, d'organisations humanitaires pour aller aider à divers endroits dans cette fenêtre 1040. Même les dirigeants en Inde, en 89, ils ont estimé que la vision de la fenêtre 1040 a amené des changements drastiques au niveau, économique, au niveau des micro-projets. Donc une aide spirituelle, une aide matérielle, un changement de mentalité. Et il reste encore des défis. Lorsque nous sommes venus au Sénégal, avec notre équipe, en 93, une petite équipe, en édition 6, elle est avec nous, en 93, on est venu parmi un peuple non atteint par l'évangile, qui ne connaissait rien, qui vivait dans une pauvreté extrême. Et nous avons commencé à prier que le Seigneur les bénisse. Un peuple de 100 000 personnes, les Lébous, qui vivent dans la presqu'île Nous avons prié pendant 3 mois. Nous avons eu des contacts formidables avec ces gens-là. Et c'était formidable, mais aucun n'était intéressé par l'évangile. Et ils voulaient rester. Ils avaient été islamisés, endoctrinés pendant 900 ans. Nous voulions leur apporter la parole libératrice du Christ, pas la parole libératrice des chrétiens. Parce que le Christ appartient aux nations, il n'appartient pas aux chrétiens. En 93, on est arrivé là-bas, on est rentré, et on était tellement. On avait prié tous les matins, on allait marcher dans le quartier tous les jours pendant 3 mois. On revient. On avait l'impression de ne pas avoir de résultats. En 95, on est reparti. On a fait la même chose. On a eu un peu d'ouverture. Des gens qui étaient intéressés. Mais on leur a dit, le Jésus que nous parlons, ce n'est pas le Jésus des chrétiens, c'est votre Jésus. C'est le Jésus des nations. Et c'est ça toute la différence pour échapper justement à cet antagonisme entre les religions. Ce n'est pas un combat contre l'islam. Ce n'est pas un combat contre le communisme. C'est un combat pour la liberté. Jésus-Christ est venu sauver et libérer. Troisième année, 95, on y va, pas beaucoup de changements. 97, on retourne, quelques changements, mais peu de choses. On est rentré. 9 mois de prière et de contact. On est rentré avec peu de résultats. Et un jour, en 2011, je retourne au Sénégal. Et je vais enseigner dans une école missionnaire. Et un soir, alors que je vais prendre l'avion, le responsable de l'école me dit, écoute, je vais t'inviter dans un petit restaurant. Et il m'emmène dans un petit restaurant à Dakar, dans le quartier où nous étions en train de prier. Et je dis, mais je reconnais les lieux là. Bon, Dakar avait beaucoup changé. Hein. Je reconnais les lieux là. Et on rentre dans le restaurant et je vois un Brésilien qui vient vers moi, un pasteur. Et il me regarde, il dit, c'est toi le responsable ? J'ai dit, c'est quoi ? C'est toi le responsable. Je n'avais même pas de quoi il parlait. Et il me dit, tu vois ce que tu vois autour de toi ? Le restaurant, les gens qui sont ici, ce sont tous des gens avec qui vous avez parlé, qui ont trouvé un travail et qui ont été touchés par Dieu, qui ont été touchés par l'amour de Dieu. Et je aimerais te dire une chose, peut-être que tu n'as pas cru voir le résultat, mais grâce à vos prières pendant 3 années, 3 fois 3 mois, 3 années fois 3 mois, grâce à vous maintenant, c'est à cause de vous que ce restaurant existe, que des gens ont un emploi et que des gens ont découvert l'amour de Dieu. J'étais là sur mon restaurant, j'ai dit, oh Seigneur, la puissance de l'intercession arrive toujours à terme. Ça c'était nous, dans le programme de la fenêtre 1040. Mais il faut encore aller plus loin, et sans dépasser trop de temps non plus, c'est qu'il faut qu'on trouve des moyens pratiques. D'abord, j'aimerais vous parler des obstacles. Qu'est-ce qui nous empêche de durer dans l'intercession ? Qu'est-ce qui nous empêche de durer dans la prière ? Et j'ai vécu ces mêmes obstacles. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller plus loin ? D'abord, il faut que je retrouve mes notes, c'est où déjà ? Alléluia. Ouais, moi, je suis tellement des fois. Alors, les conseils. D'abord, il faut savoir que l'intercession porte du fruit lorsqu'elle s'inscrit dans la durée. Voyez, beaucoup de gens commencent dans la spontanéité. Vous savez, c'est comme le jogging. Hein Hein, on prend tous du poids, moi le premier. Et au début, on est tout content au mois de janvier. Allez, allez, résolution. Ah ouais, d'accord, mais souvent, on sèche, souvent, au bout de 3 mois. Et ce qui fait qu'on va porter du fruit, c'est qu'on va faire ça dans la durée. L'intercession produit du fruit dans la durée. Hébreux 10, 36. Car vous avez besoin de persévérance qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. On est dans une société occidentale où nous ne persévérons pas et nous avons besoin de persévérer. Donc c'est le premier obstacle, c'est le manque de persévérance. Si vous ne décidez pas d'organiser votre vie de prière et si vous vous réveillez le matin de temps en temps, « Oh, j'ai envie de prier, j'ai pas envie de prier », rien ne va se passer. Vous savez, il y a un groupe missionnaire qui s'appelle les Moraves. Vous avez entendu parler des Moraves, hein? C'était un comte allemand, c'était un noble. C'était au 15e siècle, je crois, peut-être même avant. C'est un homme de prière. Il a organisé une campagne de prière qui a duré, une chaîne de prière qui a duré 100 ans. 100 ans sans être interrompu. Avec des équipes. Pour le monde entier. 100 ans sans être. Parce qu'il savait qu'il fallait que ça s'inscrive dans la durée. La spontanéité a sa place dans l'intercession. L'intercession, c'est pas quelque chose d'ennuyeux, c'est quelque chose de passionnant. Mais ça ne suffit pas. C'est comme le mariage au début. Hein. Le mari, il est beau. Hein. Jean-Louis m'a dit, oh, quand tu es jeune, tu plaisais, hein, mais maintenant... Mais bon, heureusement que ma femme, elle m'accepte encore. Hein. Le contrat de la durée, ça aide, le CDI. On ne peut pas durer dans l'intercession si on n'est pas dans un mode de persévérance. Moi, je vous encourage à avoir un journal de prière. Comment vous allez organiser votre vie de prière ? Il y a des gens, par exemple, ils prennent 1 heure par jour. Ça peut être le matin, ça peut être le soir. Parfois, on ne sait pas comment prier. Hein? Je vous donne, par exemple, des exemples. On peut prier, on peut prendre la semaine, 7 jours, et essayer d'avoir peut-être même un quart d'heure par jour. Vous allez prier quelque chose qui est en dehors de vous. Hein? Ça peut être prier pour la ville. Ça peut être prier pour votre région. Ça peut être prier pour les églises. Ça peut être prier pour les responsables spirituels. Ça peut être prier pour les 7 domaines d'influence de la société. Ça, c'est un bon exemple que je donne. Dans toutes les nations, nous avons 7 domaines d'influence de la société. 7 domaines, 7 jours. On peut le faire comme ça, même si c'est un petit quart d'heure. Prier pour la politique, bénir, bien sûr. En tant que Français, il faut qu'on change ça. L'économie, la science et les technologies. On en a besoin. On a besoin de nouvelles sciences et technologies par rapport aux défis climatiques qu'on trouve aujourd'hui. Il faut qu'on ait ces nouveaux domaines. Prier pour l'éducation. Prier pour les arts. Prier pour les médias. Vous voyez, c'est ces 7 domaines qui décident pour votre vie. Ces 7 domaines d'influence de la nation décident pour votre vie. Et le Seigneur veut qu'on soit sel et lumière déjà par la prière dans ces domaines-là. En Afrique, vous savez, vous me direz les frères, hein, souvent on ne veut pas prier pour l'économie et la politique parce qu'on dit quoi ? C'est corrompu. Hein ? On ne veut pas aller là-dedans. C'est corrompu. Alors que ces mêmes frères vont aller dans les villages vaudous, ils vont aller dans un endroit où il y a la sorcellerie, puis on prêche les mandiles alors qu'il y a de la corruption là-dedans. Non, mes amis, nous devons être celles et lumières dans les... Alors, un exemple, priez par exemple pour les domaines de la société dans votre semaine. Ayez un journal de prière, un carnet. Trouvez votre méthode. Pourquoi ? Parce qu'on oublie les choses. Dans votre journal de prière, vous pouvez noter les sujets que vous recevez. Vous pouvez noter les exaucements. Vous pouvez avoir comme un agenda qui vous permet d'être relié dans l'avenir et dans le passé. L'intercession, concentrez-vous sur le fait que Dieu veut bénir. Concentrez-vous moins sur le combat spirituel, mais concentrez-vous sur la grandeur et la puissance de Dieu qui peut changer les situations les plus impossibles. Les clichés sont souvent des obstacles à la prière. On va dire, la France est dure. Hein, quand les gens y viennent ici, les missionnaires disent, la France est dure. Elle ne veut pas recevoir l'évangile. Moi, j'aimerais vous dire, la France n'est pas dure fondamentalement. Elle refuse la religiosité. C'est très différent. On a fait pendant 15 ans des camps d'évangélisation à Paris et on s'est rendu compte que les gens ne sont pas intéressés par la religion, mais ils sont intéressés par avoir une relation d'amour avec Dieu. Les distractions, ça, c'est un obstacle important. Vous avez remarqué, lorsque vous décidez de prier, Et lorsque vous décidez de fermer les yeux, il y a plein de pensées qui viennent, vous savez. On a une énorme difficulté à se concentrer. C'est pour ça que beaucoup de gens vont faire des séminaires dans les monastères ou dans des endroits où ils sont seuls. Parce qu'il y a une ambiance, il y a un programme qui permet d'évacuer, je veux dire, toutes ces distractions. Voyez. Et ça, il faut le savoir, c'est que nous sommes dans une société où nous sommes éparpillés par les distractions. Et un autre obstacle, me disait un ami pasteur, c'est le téléphone portable. Un ami pasteur américain me disait, vous savez, je dirais, l'ennemi vole la vie de prière aux ados et aux jeunes américains en utilisant leur téléphone portable. Quand tu vois que certaines personnes, et même les adultes, peuvent passer de 6, voire les pires, à 16 heures par jour sur leur téléphone portable. Il faut du temps. La première chose que j'ai fait pour réorganiser ma vie de prière, j'ai dit, il faut que je te redonne du temps, Seigneur. La deuxième chose, c'est quand. Alors moi, je suis quelqu'un qui me lève tôt, et je sais que le matin, c'est là que je suis le plus en forme. Et je me suis dit, comment je vais faire? Il ne faut pas commencer par avaler la montagne, parce que souvent, on sèche très vite. Mais commencez par des petits bouts, un petit quart d'heure. Tenez-y-vous. Et plus vous allez continuer, votre puits va se remplir d'eau, plus là, tout ce qui est un petit peu vacuif, qui est là, qui stagne, et la vie va revenir. Voyez. Quand on revient dans une vie de prière, il y a quelque chose qui se remet en route. Il y a eu des moments, mes amis, où je n'avais qu'une seule envie, c'est de quitter mon travail et de courir dans ma chambre pour prier tellement j'attendais la présence du Seigneur. Mais il faut commencer. Il y en a qui disent, oh, je ne veux pas faire comme il est en train de dire, parce que c'est du légalisme. Ben, excusez-moi, hein, moi je fais la vaisselle à la maison. Si je dis à ma femme, franchement, la vaisselle, c'est du légalisme, ça n'a pas marché. Voyez, il y a des moments, pour être stratégique, il faut se donner des bornes. Voyez, il faut que vous voyez, vous trouviez votre méthode. Ce n'est pas moi qui dois vous l'imposer. Moi, je connais quelqu'un, c'est un ancien missionnaire, il avait décidé de prier pendant toute l'année, une fois par semaine, pour une nation. Ce n'était pas excessif, mais quand même. Donc pendant 52 semaines, il a prié pour les nations. Et j'aimerais vous donner un secret, que vous savez tous. Lorsque vous priez, par exemple pour la Mauritanie, lorsque vous priez pour le Mali, ce n'est pas juste une technique, ce n'est pas juste un truc comme ça. Romains 5,5 dit ceci, que lorsque vous priez, l'amour de Dieu est déversé dans votre cœur par le Saint-Esprit. Et il y a des gens, j'ai vu des intercesseurs prier, qui n'arrivaient pas à terminer leur prière, tellement ils avaient le cœur de Dieu. Ils pleuraient dans l'émotion. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui se passe quand on prie pour quelque chose. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai prié pour la Russie pendant 7 ans. La première fois que je suis allé en Russie, à Moscou, je suis arrivé là dans l'aéroport. Bon, c'était un terminal, hein. Je n'étais pas vraiment sur le sol, vraiment russe. J'ai dit, Seigneur, merci pour la Russie. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un. Tu ne peux pas prier pour un pays, tu ne peux pas prier pour ton gouvernement sans en restant indifférent. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit va mettre la compassion et tu vas continuer de prier pour cela. Faites gaffe si vous vous lancez dans l'intercession, parce que vous allez être surpris comment Dieu peut vous communiquer cet amour. Récemment, on a prié pour l'Ukraine, c'était en février, au tout début du conflit. Il m'est arrivé cette expérience personnelle, je ne sais pas pourquoi, ça m'est arrivé comme ça. Mais je n'arrivais pas à terminer mes prières lorsque je priais pour l'Ukraine. Lorsque je priais à haute voix avec les frères, à un moment donné, je me mettais à pleurer. Il y avait quelque chose qui avait été saisi dans mon cœur par rapport à cela. Vivez-le, mes amis. Tous les intercesseurs ont expérimenté la fontaine de larmes qui permet du changement, qui permet un changement. Il y en a qui disent, il y a tellement de besoins dans le monde. Oh Seigneur, par quoi je vais commencer? C'est un obstacle. Souvent les gens disent, il y a un besoin là. Mais vous savez, Dieu est sage et son Saint-Esprit est précis. C'est qu'il va vous donner quelque chose pour aujourd'hui et après quelque chose pour demain. Et si vous avez un carnet de prière, si vous voulez prier pour les sphères d'influence de la nation, c'est que Dieu vous les a déjà données. Si vous dites au Seigneur, j'aimerais prier pour quelque chose, il va vous donner peut-être une stratégie. Il y a quelques années, j'avais très à cœur de prier pour toutes les églises de France. Alors j'avais l'annuaire de la Fédération protestante. Ce n'est pas un guide de prière, hein. C'est un bottin avec les téléphones des pasteurs. Et j'ai commencé à prier pour toutes les églises locales de France en priant pour tous les pasteurs et les leaders. C'était la stratégie que Dieu m'avait donnée. Il y en a qui se moquaient de moi. Elle dit, ah, t'as ton bottin de l'annuaire de la Fédération protestante. Il dit, non, c'est mon livre de prière. Mais grâce à cela, lorsque je suis allé dans une église baptiste, lorsque je suis allé dans une église évangélique, et je me suis souvenu du nom du pasteur qui est là, ah, je te dis, quand je le salue, ça change mon cœur. J'étais comme dans sa famille, tu vois. Comme dans sa famille. Le fatalisme est un obstacle. Ah, les choses ne vont pas changer. Les intercesseurs, ce sont, je dirais pas des optimistes invétérés, parce qu'on peut être optimiste et être déçu. Mais ce sont des gens qui croient ce que Dieu croit. Et Dieu n'est pas un Dieu de désespoir. Lorsque Dieu a dit à Ézéchiel, alors qu'il y avait la guerre, alors que chacun se tirait dans les pattes, « Je cherche un homme !» Lorsque Dieu a dit à Ézéchiel devant la vallée des ossements desséchés, « Que la mort souffle !» Ça, c'est l'intercession. Et jamais vous y pensez, parce qu'il faut qu'à la fin de ce culte, vous réfléchissiez à vous réengager. À remettre, c'est pas de la culpabilité, mais on en a besoin. En 2013, en décembre, j'étais là dans ma chambre et j'étais assis sur le fauteuil, un petit peu comme un chrétien bien hypocrite, et je m'endormais un samedi soir vers minuit. Ah, j'ai dit Seigneur, change ma vie de prière. Et je me suis endormi, j'ai entendu une voix forte. Lève-toi, mets-toi à genoux et prie tout de suite. C'était pas le truc, oh, tu sais, je te comprends, c'est un peu dur, etc. Il m'a dit, tu veux avoir un changement, et ça a changé ma vie. Ça a recommencé comme cela. On a besoin d'être réengagé de temps en temps, d'être remis sur les rails. Avoir des stratégies de prière. Cherchez quelles sont les stratégies que Dieu veut vous donner. Ne priez pas dans la spontanéité. Et juste comme ça, je me lève le matin et je ressens d'où vient le vent. Même si la tâche est grande, Dieu va vous donner des choses qui sont spécifiques. Les préjugés sont un véritable obstacle. Je ne prierai pas pour les Arabes parce que je ne les aime pas. C'est pas vrai ? Je ne prierai pas pour le président parce que c'est un crétin. Je ne prie... Qui nous demande ? Ce n'est pas une appartenance politique. C'est prier pour ceux qui dirigent le pays. Je ne prierai pas pour l'Afrique parce que je ne les aime pas, parce que je n'aime pas leur couleur de peau. Je ne prierai pas pour l'église à côté parce qu'ils m'ont fait du mal. Tu vois ? Il faut briser ces préjugés. Il faut que dans votre cœur, il y ait une opération du Saint-Esprit. Cette opération du Saint-Esprit, comme me disait Georges Verver, le fondateur d'Opération Mobilisation, c'est que le monde entier soit dans votre cœur. Résistez à ce que votre cœur ne soit jamais rétréci à une nation ou une situation ou une autre. Résistez à cela. Ayez le cœur de Dieu. Ma prière sera une prière pour toute ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Un texte qui a été dit il y a 2600 ans par Isaïe. Et aujourd'hui, c'est tellement actuel. Ah oui, mais ils vont prendre notre travail. Ah oui, mais ça, hein, mes amis. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Désolé, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Et vous verrez des résultats. Les clichés, les présupposés, les préjugés qui nous empêchent d'aller plus loin. Qui nous empêchent d'aller plus loin. Seigneur, merci pour ce temps. On va prier quelques instants. On pourrait abonder en témoignages, même dans cette église. Et n'oublions pas, et j'allais le dire parce que je l'avais, n'oublions pas, mes amis, de prier pour Israël. Nous sommes dans des temps aujourd'hui difficiles où l'antisémitisme revient. Ne permettons pas que notre cœur soit un cœur rétréci. Mais je te prie, Seigneur, que tu nous aides aujourd'hui et dans la semaine qui vient à ce que le monde soit replanté peut-être dans notre cœur, à qu'il n'y ait aucun espace géographique, aucun espace sociétal, aucun espace spirituel auquel nous disons « Non, je ne prierai pas pour ça ». Nous voulons ce matin briser, Seigneur, dans la prière, nous humilier en disant « Seigneur, oui, nous voulons être une armée d'intercesseurs, nous voulons être de ceux qui bénissent, qui disent oui et amen, qui croyons en des choses meilleures parce que tu crois en des choses meilleures. Et si nous avons besoin de la foi, c'est parce que justement les choses sont parfois difficiles. Seigneur, élève notre niveau de foi, donne-nous de la hauteur, donne-nous de la hauteur sur les nations, sur les peuples, sur les personnes, sur les églises, sur les gens, sur notre famille, sur nos amis. Nous voulons avoir ton regard, le regard comme tu avais. Dans Jean 17, 9, tu as dit à tes disciples, « Je ne prie pas pour le monde. » mais pour ceux que tu m'as donné. Et Seigneur, cet espace du monde, tu nous l'as donné pour que nous puissions vivre un héritage, voir des changements dans ce monde à tous les niveaux. Seigneur, que nos villes puissent être bénies avec nos prières et que tu nous donnes pendant ces temps qui viennent des stratégies plus précises par ton esprit et une capacité, Seigneur, selon Hébreux 10, 36, d'avoir cette persévérance pour recevoir ce que nous avons promis, Seigneur, après avoir persévéré, pour avoir, connaître et avoir la volonté de Dieu en héritage. Amen. Père, je prie vraiment que ce soit aussi un temps pour nous de d'honnêteté, de simplicité, de repentance et de dire, Seigneur, oui, je refuse qu'il y ait des clivages, je refuse qu'il y ait des blocages, je refuse qu'il y ait des séparations, qu'il y ait des murailles dans mon cœur. Seigneur, nous voulons être des chrétiens internationaux, des chrétiens universels, parce que tu es le maître de la terre, parce que tu as dit que tu étais la lumière bénissante de ce monde, Seigneur. Amen.